c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
S'il ne reste plus que deux radios en mer du Nord, l'une d'elles est plutôt turbulente, Radio North Sea International, qui restera sans conteste l'enfant terrible de l'histoire des stations de radio maritimes. Après avoir perturbé l'espace hertzien pendant des mois, après avoir contribué à la défaite du premier ministre britannique Harold Wilson et de son parti le 18 juin 1970, Radio North Sea International a continué à faire parler d'elle en signant un curieux partenariat avec l'historique Radio Veronica. La pionnière des radios offshore a acheté le silence de sa nouvelle concurrente. Après un retour sur les ondes au début de l'année 1971, le Mebo 2, qui abrite la station, est victime d'un incendie d'origine criminelle le 15 mai. Radio Luxembourg, 208 mètres onde moyenne, dimanche 16 mai 1971, 20h.
Now news. Dutch police today arrested three men suspected of causing a fire on a pirate radio ship. Late on Saturday night, the pop music programs on Radio North Sea International were interrupted by frantic appeals for assistance. A disc jockey said that a bomb had been thrown on the ship, and fireboats later put out the blaze. Broadcasts were resumed.
Les auteurs de l'incendie du Mebo 2 furent rapidement interpellés, et deux des trois hommes passèrent vite aux aveux. Mais le lundi 17 mai, la surprise est de taille lorsque la police annonce que les investigations les ont conduits à interpeller un quatrième homme, un certain Norbert Jürgen, qui n'est autre que le directeur général de Radio Veronica, la station concurrente. La direction de Veronica s'empressa alors de publier un communiqué de presse pour affirmer qu'elle n'avait rien à voir avec cette affaire. Mais le 18 mai, Hendrik Bulverwege, un autre responsable de la radio historique, admet dans une interview avoir payé Norbert Jürgen pour qu'il ramène le Mebo 2 au port. Mais il nie toute responsabilité dans les actes perpétrés par le commando. Malgré tout, la police l'interpelle quelques jours plus tard pour sa participation au complot. Ce fait divers va avoir sur le gouvernement néerlandais exactement le même effet que le meurtre de Reginald Calvert a eu sur le gouvernement britannique en 1966. Le 27 mai 1971, le Premier ministre annonce que son gouvernement va accélérer l'examen du projet de loi visant à ratifier la Convention de Strasbourg de 1965, premier pas vers une loi anti-radio maritime. Encore une fois, ces radios apparaissent comme évoluant dans un monde sans règles, et encore une fois, il est mal aisé de les défendre malgré l'alternative qu'elles proposent aux auditeurs. Toutefois, cela ne semble pas troubler les responsables de Radio North Sea International, et pendant que le Mebo 2 est réparé en pleine mer, les émissions se poursuivent et la station développe ses programmes, avec l'ouverture d'un service d'information et le lancement d'un programme World Service distinct des émissions en anglais et néerlandais.
Just sort of say we haven't done for an awful long time, do you remember? Trevor knows that music making a lara and I. Hello, buddy. You're with WRMI. We do that especially for our American forces friends in Western Germany. Very good evening to you guys. Hope things are going well for you out there. You'll be glad to know the jet fighter will be around a little later on in the program. Or maybe he's already been around.
Presenting
another fine product, ladies and gentlemen. Another fine hype on the world, which means it's been a Stevie Merrick hit pick. Back to the 1920s. And 4L0. Yeah, work that one out for yourselves. Hit sound 41, Johnny King.
Lazy bone, sleeping in the sun. How you gonna get your day's work done?
L'enthousiasme que l'on peut entendre à l'écoute de la station ne reflète pas forcément l'ambiance qui règne sur le bateau. Les relations entre les DJ et la direction ont parfois été houleuses. En août, Stevie Merrick et Alan West, les deux voix anglaises les plus populaires, quittent le navire après que leur contrat n'ait pas été renouvelé. Une semaine plus tard, c'est Tony Allan et Andy Archer qui sont remerciés. De retour de vacances, ils reprirent l'antenne pendant 4 jours et furent licenciés. Un peu plus tard, lors d'une interview à la presse néerlandaise, Andy Archer fit une étrange déclaration. il affirma que Radio Nazi International diffusait parfois des messages codés à l'intention d'un pays communiste. Bien sûr, la direction de la station démentit immédiatement. Mais la rumeur enfla pendant quelque temps. Pour le comprendre, il faut se replacer dans le contexte de l'époque, la guerre froide. Dans les années 60, déjà, les gouvernements concernés par les radios offshore, le gouvernement britannique en particulier, avaient exprimé des craintes quant au fait qu'une station maritime pourrait facilement diffuser de la propagande politique. Ce ne fut jamais le cas, mais la déclaration d'Andy Archer fut suivie d'autres spéculations à propos de Radio Nazi International. En visite sur le Mebo 2, un journaliste remarqua une pièce fermée à clé et s'empressa de supposer qu'elle pouvait être le lieu d'envoi ou de réception des fameux messages. Comme la société Mebo vendait des équipements de communication dans le monde entier, et notamment à certains pays de l'Est, cela ajouta encore aux suspicions que la radio pouvait parfois servir de relais à des messages codés. L'auteur Paul Harris ajouta encore à la rumeur lorsque, faisant la promotion de son second livre sur l'histoire des radios offshore, To Be a Pirate King, il affirma que RNI était impliqué dans des activités d'espionnage. Le ministre néerlandais de l'Intérieur, M. Dertsma, affirma que les services de renseignement avaient bien identifié des programmes contenant des messages codés, sans être plus précis sur la nature, la provenance ou la destination de ces messages. Enfin, la presse ne tarda pas à découvrir que la résidence de Weekend d'Edwin Bollier, l'un des deux dirigeants de RNI, était équipée d'un important matériel de transmission radio avec d'imposantes antennes et que cette demeure était particulièrement bien protégée par d'impressionnantes clôtures. Du coup, cela ne fit qu'aller dans le sens des suspicions qui circulaient déjà. Le fait est que les deux Suisses étaient de réels passionnés de radio. Plus tard, Andy Archer reviendra sur ses affirmations et Erwin Meister se fera photographier dans la fameuse pièce du Mebo 2, soupçonnée d'être un lieu de transmission de messages. Il s'agissait visiblement d'un simple débarras. La rumeur mourut d'elle-même, car aucune preuve ne fut apportée. Lorsque l'on écoute aujourd'hui les nombreuses heures d'enregistrement de Radio Nazi International, on ne détecte aucun message susceptible de nourrir le doute. Mais cela ne constitue pas non plus une preuve, car finalement, un bon message codé est un message qui passe inaperçu sauf auprès de son destinataire. L'histoire tumultueuse de Radio Nazi International offrait de toute façon le socle à toutes les rumeurs. On ne prête qu'aux riches, comme on dit. Il ne faut pas oublier que les radios offshore ont eu régulièrement recours à des messages codés qui étaient en fait destinés à leur logistique de ravitaillement à terre, pour tenter de dissimuler aux autorités la nature de ce qui transitait entre la côte et les navires.
Radio Noordzee, international news. De laatste berichten uit alle nieuwscentra.
Zondag 11 juli 1971. Troepen van koning Hassan hebben in het centrum van Rabat na een vuurgevecht van 20 minuten een groep rebellen verwijderd uit het gebouw van de Verenigde Naties daar. Volgens een mededeling van de Nederlandse ambassade in Rabat bevinden zich er geen Nederlanders onder de slachtoffers van de staatsgreep. Tot dusver heeft Radio Cairo nog niet gereageerd op de gebeurtenissen in Marokko. Het Belgische kabinet is vannacht in spoedvergadering bijeengekomen naar aanleiding van de dood van haar ambassadeur bij de staatsgreep en de Marokkaanse ambassadeur in België zal morgen een rouwbeklag aanbieden bij het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken.
Radio Veronica tente de restaurer son image après l'implication de certains de ses dirigeants dans l'attaque contre le navire de sa concurrente le 15 mai 1971. Face à la volonté du gouvernement néerlandais d'instaurer une loi anti-radio offshore, la station historique désirait prouver sa popularité et lança une campagne intitulée « Veronica restera si tu veux ». Plus de 2 millions d'auditeurs expédièrent des cartes postales de soutien. En septembre, la station lança son magazine « Veronica 192 » pour relayer la campagne de soutien, mais aussi pour diffuser une image positive, avec des rubriques sur la musique pop et la culture. Le 21 septembre, l'audience du tribunal condamne toutefois Bulverweij, Norbert Jürgen et les trois plongeurs à un an de prison ferme ferme pour l'attaque contre le Mebo 2.
Alvast bedankt luisteraars. Goedemorgen tegen de mensen die hier net zijn bijgekomen en zo. Welkom in de wereld der wakker of zoiets. Dat was een opname getiteld Veronica. U hoorde hem op Veronica. En wij draaiden dan het eerst vanzelfsprekend allemaal in verband met onze actie Veronica blijft, als u dat wilt. Op de achterkant van het ding vindt u allemaal jingles. Maar die kunnen we op het ogenblik niet draaien, want we hebben een bandje in de studio in plaats van het plaatje. En zo. Ook op een bandje is het volgende.
Voor Nappa en Zweden trenchcoats naar
Berdien, Berdien.
Voor Zweden mantels, Nappa pakjes, Nappa en Zweden jacks, Berdien, Nieuwendijk 143, Amsterdam.
Voor Nappa en Zweden naar Berdien,
Berdien. Berdien.
Straks ook tussen 12 en 2. Twee uur lang niks anders dan gauw ouwe. Nu is het ook voor eentje. Opbouw van de Tremolo's. Terug in de zomer van 1967 voor deze. En de titel hiervan, toepasselijk voor mij in dit geval, Here Comes My Baby.
The midnight,
au début de l'année 1972, les deux seules radios offshore au monde se trouvent donc au large des côtes hollandaises. Le 29 mai, les deux anciens bateaux de Radio Caroline, le Miami Go et le MV Caroline, furent mis en vente par la société Wischmüller qui les avait immobilisés le 3 mars 1968. Voilà plus de 4 ans que les deux bateaux étaient livrés à la rouille et au vandalisme. Le MV Caroline, qui abrita les premières émissions de la station, puis le programme de Caroline North, fut vendu à un ferrailleur. Le Miami Go, qui hébergea Radio Nord, Radio Atlanta, puis Radio Caroline South, fut quant à lui acquis par l'agence maritime Hoffman. Elle ne révéla pas immédiatement le nom du client pour lequel elle avait effectué cet achat. Un peu plus tard, on apprit que le navire avait été acquis par l'organisation néerlandaise des radios libres, dirigée par un certain Gérard Van Damme. L'organisation affirma que le navire allait être transformé en musée de la radio offshore. Les studios seraient restaurés dans leur état d'origine et des cabines seraient aménagées pour accueillir des passagers. Le Miami Go fut remorqué jusqu'au port de Zaandam où il fut restauré durant tout l'été 72 par une équipe de bénévoles. Ronan O'Reilly n'était pas très loin. On sait que depuis l'arrêt brutal de Radio Caroline, l'Irlandais a cherché à lancer un programme télé. Mais il s'est aussi lancé dans la production de films, avec un succès plutôt mitigé. Sa société, Mid-Atlantic Film, coproduisit The Girl on a Motorcycle avec Marianne Faithfull et Alain Delon. Durant ce second semestre 1972, Mid-Atlantic Film participe à la production d'un autre film. Mais le budget est serré et Ronan O'Reilly craint de ne pouvoir assurer une promotion correcte. Le redémarrage de Radio Caroline serait une opportunité pour le remettre au devant des médias. De plus, O'Reilly est à la fois un vrai passionné de musique et de radio et il n'a jamais renoncé à l'idée de relancer la station. En acquérant le Miami Go, Gérard Van Damme a-t-il réellement eu l'idée d'en faire un musée des radios offshore ou les dés étaient-ils pipés dès le départ ? Comme le navire avait été présenté comme un futur musée, les autorités ne furent pas vigilantes lors de sa restauration et l'équipe de la Dutch Free Radio Organization put travailler en toute tranquillité. Mais du fait que les objectifs étaient différents, il fallait être le plus discret possible. Début septembre, le Miami Go quitta furtivement le port de Zaandam et suivit le réseau de canaux qui menait vers la mer du Nord. Les autorités maritimes furent informées que le bateau se dirigeait vers la Grande-Bretagne où l'intérêt pour la radio offshore était soi-disant plus important. Mais une fois la limite des eaux territoriales franchie, le Miami Go ne prit pas la route de la Grande-Bretagne mais alla s'ancrer près du Mebo 2 de RMI et du Norderney de Radio Veronica. The Times, mardi 5 septembre 1972. Radio Caroline abandonne son déguisement de musée et reprend ses émissions. Par Sue Masterman, La Haye, 4 septembre. Radio Caroline, la première radio pirate pop britannique, soudainement disparue des ondes en mars 1968, prévoit de faire son retour cette semaine. Sous couvert d'aménager un musée pirate pop, un néerlandais de 24 ans, M. Gérard Van Damme, a réussi à rééquiper le Miamigo, l'un des deux anciens navires émetteurs de Radio Caroline, dans le port de Zaandam. Avec l'autorisation des autorités, le navire a été remorqué en mer pendant le week-end, apparemment pour atteindre un mouillage définitif. Il est désormais amarré juste à l'extérieur de la limite néerlandaise des 3000, près de La Haye, et des tests d'émission sont prévus cette semaine. La Bell Commercial Broadcasting Company, qui opère sous une boîte postale à Amsterdam, serait le nouveau propriétaire du Miamigo. Il y a 6 semaines, le Miamigo a fait escale à Zaandam. La police et les douanes surveillaient le bateau de près, mais étaient apparemment convaincus que la transformation en musée était une opération de bonne foi. Les nouveaux dirigeants de Radio Caroline ont indiqué que certains des financiers de leur nouvelle entreprise sont néerlandais et d'autres britanniques. Leurs programmes seront destinés au marché britannique et ils prévoient de diffuser des publicités pour des entreprises internationales. Si Ronan O'Reilly voulait s'offrir une publicité, c'est réussi, car la presse en parle et pas seulement en Grande-Bretagne. Le Monde, du 11 septembre, publie aussi un article pour relater le retour prochain de la station sur les ondes. Mais des divergences apparaissent entre Ronan O'Reilly et Gérard Van Damme. Le premier souhaite ramener le Miamigo à son mouillage d'origine au large de la côte de l'Essex, où il estime pouvoir reconquérir rapidement le public qui écoutait Caroline. Van Damme, quant à lui, souhaite que le bateau reste au large des côtes hollandaises, car selon lui, le potentiel commercial est plus favorable en Hollande, où la publicité sur les radios offshore n'est toujours pas interdite. Ces divergences retardèrent la remise en onde de la station. Mais le changement de fréquence annoncé de Radio Veronica poussa les techniciens de Radio Caroline à démarrer leur émetteur le 29 septembre 1972 sur 253 mètres en onde moyenne. Ils espéraient ainsi accrocher des auditeurs de Radio Veronica amenés à quitter la fréquence 192 pour rejoindre la nouvelle fréquence 538 mètres. Depuis le Miamigo, c'est un programme musical non-stop sans animation ni identification qui fut diffusé. Ronan O'Reilly célèbre à sa manière, si l'on peut dire, son retour dans le monde des radios offshore en débauchant deux membres importants de l'équipe de Radio North Sea International, l'ingénieur Peter Chicago et le DJ Spangle Muldoon, ce dernier annonçant presque ouvertement à l'antenne de RNI sur quelle future radio on va bientôt pouvoir entendre sa voix, ajoutée 39 aux 220 mètres de RNI. Le 24 octobre, les programmes en anglais de Radio North Sea International ne débutèrent pas. En lieu et place, on put entendre de la musique non-stop et quelques annonces en néerlandais. On ne tarda pas à apprendre les raisons de cet arrêt soudain. Et encore une fois, on ne put que constater la manière très particulière dont cette station était dirigée. Considérant que le service en langue anglaise n'était pas assez rentable, le responsable du service néerlandais décida de cesser les programmes en anglais et licencia toute l'équipe, mais sans en informer Erwin Meister et Edwin Bollier. La direction suisse désavoua cette décision et réembaucha le personnel. Les programmes en anglais purent redémarrer le 3 novembre. Entre Gérard Van Damme et Ronan O'Reilly se poursuivit, ce qui retarda encore le redémarrage officiel de Radio Caroline. Initialement, deux programmes devaient être lancés, l'un en néerlandais, appelé Radio 199, et un programme en anglais avec le nom Radio Caroline. Mais le 13 novembre, le Miamigo fut pris dans une tempête et dériva. Son mât s'effondra et une antenne de fortune fut installée. Les essais de diffusion reprirent, accompagnés d'une annonce demandant aux auditeurs de faire parvenir des rapports d'écoute.
This is a test broadcast on 1187 kHz. 1187 kHz. If you'd like to send us a reception report for this broadcast, then we'd like to hear from you. Our address is PO Box 2448, The Hague in Holland. That's PO Box 2448, The Hague in Holland. If you'd like to send us a reception report, then this is what we require. First of all, your location, the time at which you're listening, and thirdly, the quality of our signal. It again is, first of all, your location, the time at which you're listening, and then, of course, the quality of the broadcast. And again, here's the address to write to. It's P.O. Box 2448, The Hague in Holland. That's P.O. Box 2448, The Hague in Holland. Again, to remind you, this is a test broadcast.
Au début du mois de décembre, les DJ commencèrent à prendre la parole, mais sans se nommer ni identifier le programme. Après un changement de fréquence, la radio s'identifia sous le nom Radio 199 le 18 décembre et commença à diffuser des programmes en anglais et néerlandais.
Il est nu 8 minutes over half 4 et nous luisterons nog steeds aan de 199 met een testuitzending. Wij willen nog steeds heel graag dat u ontvangstrapporten stuurt naar postbus 2448 Den Haag. Dus voor ontvangstrapporten betreffende deze 199 op een frequentie van 1520 kHz, laat ik dat vooral niet vergeten, postbus 2448 Den Haag. En dit is Leon Russell.
I'm up on the tight
wire. Tight rope.
One side's ice and one is fire.
Mais le 22 décembre, l'appellation 199 fut abandonnée. Et le nom Radio Caroline réapparut pour la première fois depuis la fin des programmes en 1968.
The Jackson 5 and going back to Indiana. Bonjour tout le monde, vous êtes à l'écoute de Radio Caroline sur 199 mètres.
Ja, en bedankt Jeremy. Met jou wil ik eventjes ook de Belgische luisteraars nog even wijzen op een bericht dat we hebben via deze zender. En dat gaat over de firma PG en PE Dekkers, Meidoornstraat 118 in Den Haag. En bij die mensen moet u zijn voor het verhuur van stalen stijgers, kamerstijgers en rolstijgers. En u kunt ook voor het uithakken van voegen en van oude gevels kunt u bij ze terecht. En tevens, en dat is zeer belangrijk in deze tijd van het jaar, verzorgen ze uw loodgieters en eventueel metselwerk. Dus als u van al deze dingen iets nodig hebt, moet u zijn bij de firma PG en PE Dekkers.
Dans la nuit du 28 décembre, l'éclairage du Miamigo tomba soudainement en panne. Depuis le Norderney de Radio Veronica et le Mebo 2 de Radio North Sea International, on put voir des tirs de fusées éclairantes provenant du Miamigo. Craignant que le navire soit en difficulté, les équipages voisins prirent contact. Mais on leur répondit que tout allait bien à bord et que les fusées servaient uniquement à réparer pour rétablir l'électricité. En réalité, il se passait bien autre chose. L'équipage néerlandais qui avait été embauché par Gérard Van Damme n'avait visiblement pas été payé depuis le mois de septembre, à l'époque où le bateau était encore dans le port de Zaandam. Ils décidèrent alors de saboter la conduite de carburant des générateurs d'éclairage en pensant que cela forcerait le capitaine à ramener le Miamigo au port. Mais lorsque le capitaine Van der Kamp refusa de céder, les Néerlandais mirent un canot à la mer et laissèrent les Britanniques seuls à bord. Plus tard dans la journée, aux alentours de 15h20, Andy Archer annonça à l'antenne que le Miamigo était abordé par une autre embarcation. Il n'est pas plus précis.
You're listening to Radio Caroline on 199 meters. Quite some events are happening outside. There's a Dutch naval destroyer, the D814, parked about 200 yards away from us. And also a small launch from this destroyer has come alongside us. We don't know what's happening. It seems to be a slight problem. But we're talking with the crew of the small launch. And standing back away is a ship called the Sea News, along with certain personnel from Radio Caroline. So to our office in Scheveningen, everything is all right at the moment. As soon as we have any news, we'll of course come on and tell you about it. Until then, we go on with some music from the band, and this is a live LP starting off with a number called The Wait.
Un peu plus tard, Andy Archer annonce que les programmes doivent cesser car une bagarre a éclaté à bord.
We're having a lot of trouble out here. There's a fight starting on the deck over something, so we may have to go off the air. We'll continue music until then.
L'équipage néerlandais qui avait quitté le navire dans la nuit est revenu. Le ton est très vite monté avec les Anglais et des coups ont rapidement été échangés. Les émissions furent arrêtées pendant plus de 2 heures. L'équipage hollandais reçut des assurances sur le paiement des salaires et accepta donc de reprendre le travail, mais comme on peut l'imaginer, l'ambiance à bord du Miamigo reste tendue. le retour de la radio historique des années pop ne fut pas franchement une fête et la presse britannique, pourtant normalement soumise à la loi anti-radio offshore, ne manqua pas de rapporter l'événement. The Times, vendredi 29 décembre 1972. Une mutinerie interrompt les émissions d'un navire de radio pop par Sue Masterman, La Haye, 28 décembre. La marine néerlandaise a envoyé aujourd'hui la frégate Limburg surveiller le navire pirate de radio pop Miamigo abritant Radio Caroline, où une mutinerie a éclaté. Les émissions de Radio Caroline, successeur de la station de radio pop pirate qui avait cessé d'émettre en 1968, ont été interrompues en début d'après-midi après que le disque jockey Monsieur Andy Archer a signalé qu'une bagarre avait éclaté à bord. Les émissions ont repris peu avant 17h avec seulement de brèves excuses pour la coupure d'antenne. La mutinerie a commencé lorsque 4 des 9 membres d'équipage néerlandais sont rentrés de permission. Non pas sur le navire habituel, mais sur un autre navire loué. L'équipage affirme n'avoir pas été payé récemment et a décidé de reprendre le navire afin de faire valoir ses droits. La marine néerlandaise a signalé plus tard dans l'après-midi que des combats avaient lieu à bord du Miamigo, ajoutant toutefois que la situation n'était pas suffisamment grave pour constituer un acte de piraterie, auquel cas la marine pourrait intervenir. La Haye, 28 décembre, l'agence de presse néerlandaise a cité le capitaine du navire, M. Will van der Kamp, qui aurait déclaré que 3 membres d'équipage britannique avaient adopté une attitude hostile envers le capitaine d'un navire qui accostait avec M. Van Damme et 5 membres d'équipage néerlandais. Ces 5 membres d'équipage avaient des griefs concernant les conditions de navigation.
Steek houdt bij uitstek is Bistro Moustache, Dr. Lelykade 5C in Scheveningen. Verwen u zelf eens met een grillsteak. Uw gastheer is meneer Sacha Messerschmidt. Bistro Moustache, Dr. Lelykade 5C in Scheveningen.
It's now 26 minutes past 3 o'clock, 4-4 half 4. And this is Caroline with love and good music. Good music from Cat Stevens.
C'était les DJ de la haute mer, 24e épisode.
Oh, I'm on my way, I know who I am. Somewhere not so far from here. All I know is all I feel right now. I feel the power growing in my head.